Bien, alors nous allons commencer ce matin avec le thème de la neutralité à l'international. Mais parce que le temps presse, nous allons, après les deux premières interventions prévues, tout de suite continuer avec celle intéressant, la première intéressant, la neutralité du politique, avec la neutralité de l'impôt d'Emmanuel de Cruchanel. Et je vais donc sans tarder passer la parole à Muriel Oubeda-Seyar qui nous traitera du sujet neutralité, guerre et paix.
Monsieur le Président, je te remercie. Je remercie bien sûr François, où est-il là, pour cette organisation impeccable. Je remercie l'Université de Tours pour nous accueillir. Je suis très heureuse évidemment de retrouver tous mes camarades de promotion. C'était un bon souvenir l'agrégation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des doctorants dans la salle, mais voilà, sachez-le, ça peut être très sympathique de passer l'agrégation. Surtout quand on a un très bon jury et de très bons camarades. Alors, voilà, je vais vous parler de la neutralité et dans son rapport avec la guerre et la paix. Je ne savais pas, quand j'ai déterminé mon sujet, que j'aurais celui qui m'a tout appris en droit militaire, droit des opérations de sécurité publique à l'international et aussi droit de l'Union européenne, accessoirement. Donc je vais parler sous son contrôle et je suis dans mes petits souliers. Patrick, hein, j'espère que ça va te plaire. Alors, neutralité, guerre et paix. Je commencerai par dire que... par une remarque d'humilité. Voilà. Je trouve qu'on est souvent déformé dans l'appréhension de la réalité par nos disciplines respectives. Et personnellement, en tout cas, j'essaye toujours de prendre du recul. Cela dit, quand j'ai établi ma communication, je me suis quand même demandé si la neutralité axiologique du droit international ne faisait pas de cette branche du droit public le cadre dans lequel s'exprimait la quintessence de la neutralité. Je sens que je vais me faire des amis tout de suite, comme ça. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, la neutralité, elle est dictée par la nature même de la société internationale. On le sait, c'est un ordre horizontal, atomisé entre États souverains, égaux. Par conséquent, on a une forme de société qui induit une relation à l'autre très particulière, profondément ambivalente, on le verra. À l'origine, c'est la philosophie d'abstention qui garantit le mieux le respect de l'égalité souveraine. Elle va s'exprimer en droit international par différents principes. Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État, le principe de non-intervention, interdiction du recours à la force armée. Et plus généralement, quand on regarde un manuel, on voit souvent l'expression indifférence du droit international. Indifférence du droit international à l'égard, par exemple, des éléments constitutifs de l'État, que sont la population, le territoire et la forme du gouvernement. Pardon. Alors, depuis 1945, hein, depuis l'ordre posé par la Charte des Nations Unies, cela dit, on assiste à une mutation de la société internationale qui cherche à se regrouper autour de valeurs communes. Et ces valeurs communes vont impliquer un devoir d'agir et des choix de la part des sujets de cette communauté. Je pense ici au respect des droits de l'homme, mais aussi à la globalisation économique. Ce sont des forces agissantes qui sont puissantes et qui impactent inévitablement la liberté des sujets du droit international d'être neutres. Et la neutralité va céder la place à l'impartialité, voire à l'engagement. Et selon moi, cette évolution est particulièrement visible dans ce qui constitue la grande affaire du droit international, à mes yeux en tout cas. Et la grande affaire du droit international, c'est quand même le maintien de la paix et la coexistence pacifique des États. Depuis 1928, depuis le pacte de Briand-Kellogg, le droit international tente en effet de peser sur l'alternance tragique entre la guerre et la paix qui rythme la vie de l'humanité. Cette alternance dont Léon Tolstoï, et je ne citerai pas de phrase parce que hier on m'a dit « pitié, ne nous fais pas du Léon Tolstoï », mais quand même, cette alternance tragique dont Tolstoï dénonce l'extrême vanité dans son roman, qui m'a inspiré bien sûr le titre de ma communication. Puisque, en fait, après l'échec de la Société des Nations, la Charte des Nations Unies pose le principe de l'interdiction absolue du recours à la force dans les relations internationales et elle tente de donner les moyens à la communauté internationale de faire respecter cette interdiction. Et le moyen principal, bien sûr, c'est la définition du système de sécurité collective. Système de sécurité collective qui tourne autour de l'action du Conseil de sécurité et de l'obligation des États membres de coopérer dans la mise en œuvre des décisions du Conseil. Dans sa quête de principes de coexistence pacifique efficace, la communauté internationale va alterner entre deux postures, il me semble. Une posture d'abstention, d'impassibilité, dans laquelle finalement on laisse l'autre, les autres, agir comme bon leur semble, au nom de la non-intervention, de la non-ingérence. Et une posture d'action, d'intervention, dans lequel on tente de peser sur l'action des autres au nom de la solidarité internationale et de l'appartenance à des valeurs communes. Il me semble que la neutralité est toujours un moyen en droit international, un moyen de servir ces deux philosophies, soit la philosophie d'abstention, soit un moyen qui doit se concilier avec l'action. Et ce moyen, on va le voir, il a une portée extrêmement ambivalente. La neutralité n'est jamais absolue, du fait des interprétations tout à fait relatives auxquelles elle donne lieu. Dans la guerre comme dans la paix, tout d'abord, la neutralité permet de ne pas prendre parti. Elle est alors au service de l'abstention, et ce sera mon premier point. Avec la philosophie d'abstention, on retrouve le sens plein du terme latin « neuter », hein, qui évidemment a donné lieu à neutralité, ni l'un ni l'autre, ni pour ni contre. Pendant la guerre, d'abord, l'État neutre va rester spectateur. Il s'abstient d'assister l'un ou l'autre des belligérants et son impartialité va confiner alors à l'immobilisme. Cette attitude, elle est très ancienne et elle puise en réalité son origine dans la pratique de la Ligue hanséatique, des cités médiévales, italiennes notamment, qui voulaient préserver leur liberté de commerce et donc leur profit économique et qui concluaient des traités d'alliance, enfin leurs États concluaient des traités d'alliance, pour permettre une navigation libre, non atteinte, non impactée par les conflits armés. On aura au XVIIe siècle la création de Ligue des Neutres en Europe. On aura différentes maximes qui protégeront la liberté de navigation dès lors que cette navigation est rattachée à un État neutre. Néanmoins, dès cette période, hein, donc dès le XIXe, début du XXe siècle, on voit bien poindre les limites d'une neutralité qui serait conçue comme absolue. La neutralité parfaite est difficilement tenable, déjà à cette époque, pour deux catégories de raisons. La première raison, c'est que parfois, souvent, l'État neutre est lié par des obligations conventionnelles préexistantes qui l'obligent finalement à respecter en fait, hein, ce lien juridique envers des États éventuellement belligérants. C'est ce qu'on va appeler la neutralité bienveillante. Deuxième raison, à partir du deuxième conflit mondial, on est face à une guerre totale, et dans cette guerre totale, il est très différent pour des États neutres de rester totalement impartiaux. C'est vraiment pendant le second conflit mondial qu'on va voir apparaître la notion de neutralité qualifiée ou différentielle, qui est une notion qui est utilisée aujourd'hui pour qualifier l'attitude des États qui exécutent les résolutions du Conseil de sécurité prenant des sanctions non militaires, des sanctions économiques. Durant la paix, ensuite, la neutralité comme synonyme d'abstention va essentiellement s'exprimer de trois manières. Tout d'abord, en temps de paix, on peut avoir une généralisation de la neutralité qui existait déjà en temps de guerre, et c'est ce qu'on va appeler la neutralité permanente de l'État. Certains États ont adopté cette forme, une forme qui évidemment a des incidences juridiques, je pense à la Suisse, je pense au Turkménistan, et le Conseil de sécurité a souvent souligné dans ses résolutions l'aspect très positif de la neutralité permanente pour le maintien de la paix dans une région. Il l'a fait encore récemment au sujet du Turkménistan par rapport à son impact dans l'Asie centrale. Donc, la neutralité permanente de l'État, elle a des incidences juridiques. Ça n'est pas le cas de la deuxième forme de neutralité qui existe en temps de paix, qu'on appelle le neutralisme ou le non-alignement, qui est un mouvement évidemment politique qui a existé en Europe, mais qui a surtout été porté par les États en développement à la période de la décolonisation. Et là, le neutralisme produit des incidences strictement politiques. En dernier lieu, enfin, il me semble qu'en temps de paix, la question de la neutralité des États membres des Nations Unies va s'exprimer, en tout cas va être révélée face à ce qu'on appelle les phénomènes de mutation territoriale de l'État, c'est-à-dire face aux phénomènes de sécession et de belligérance. Qu'est-ce qui se passe quand on est face à un phénomène de belligérance? On est face à un phénomène de conflit armé non international, interne, ce qu'on peut appeler une guerre civile, donc, hein. Face à cette guerre civile, les États ont deux choix. Normalement, s'ils appliquent la neutralité absolue, ils ne doivent pas intervenir. Pourquoi ? Ils ne peuvent pas intervenir pour aider les belligérants parce que c'est une ingérence dans les affaires intérieures de l'État sur le territoire duquel se déroule la belligérance. Ils ne peuvent pas intervenir pour aider le gouvernement. Quand je dis belligérants, c'est rebelles, pardon. Ils ne peuvent pas intervenir pour aider le gouvernement parce qu'en aidant le gouvernement, ils pourraient porter atteinte au principe d'autodétermination des peuples. Par conséquent, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, autrement dit. Donc par conséquent, une vraie posture de neutralité implique de ne pas agir, de s'abstenir. Néanmoins, un principe va venir contrer cette exigence de neutralité, c'est le principe de légitimité, notamment légitimité démocratique. Et de plus en plus, aujourd'hui, bien sûr, les États se permettent de porter un regard sur les affaires intérieures des autres États et se le permettent, ce qui donne lieu à des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques et même parfois des interventions militaires. Et là, je pense aux nouvelles formes de devoir d'ingérence qui se développent aujourd'hui et notamment à la responsabilité de protéger, qui peut conduire, bien sûr, à des actions armées. Alors, la responsabilité de protéger, on voit tout de suite le risque, bien sûr. Le risque de quitter la posture de neutralité pour permettre à des États d'intervenir de manière militaire sur le territoire d'autres États, c'est le risque de l'instrumentalisation qui existe de toute façon dans d'autres domaines. On l'a vu encore très récemment avec la Russie qui est intervenue au nom de la responsabilité de protéger en Géorgie et en Ukraine. En même temps, la posture de la neutralité est de moins en moins confortable pour la communauté internationale. On le voit bien en ce moment en Syrie. Assister de manière impassible, sans rien faire, à des violations massives des droits de l'homme, au nom du respect à la fois de la souveraineté de l'État et cette tension entre donc l'autodétermination et la souveraineté de l'État, c'est très complexe. En d'autres termes, je crois qu'aujourd'hui, il est de plus en plus difficile dans la société internationale de rester sourd à la détresse de l'autre ou d'échapper à ce que j'appellerais la force de gravité, en fait, entre les différentes puissances agissantes dans la globalisation. Et c'est pourquoi le temps de l'abstention cède la place à celui de l'action, qui est le second temps de mon analyse. Alors, que reste-t-il de la neutralité sous le feu de l'action ? À mon avis, pas grand-chose. À mon avis, il en reste deux éléments irréductibles, l'impartialité et l'absence de recours à la force. Armée, j'entends. Alors, s'agissant en premier lieu de l'impartialité, c'est l'action des organismes humanitaires qui nous apprend le plus sur ce qu'est l'impartialité en période de conflit armé. Selon la formule bien connue du Comité international de la Croix-Rouge, je cite là, « Une intervention humanitaire doit être menée sans qu'il soit pris part aux hostilités ou aux controverses d'ordre politique, racial, ethnique et idéologique. » En d'autres termes, quand on agit au plan humanitaire, on fait forcément des choix. Toute action suppose des choix, mais on ne doit pas laisser apparaître de préférences personnelles qui conduiraient à légitimer ou délégitimer les autorités en cause. Donc on voit bien ici que la neutralité est encore un moyen au service d'une fin. Le CICR est neutre, pourquoi ? Parce que l'objectif visé, bien sûr, est d'accéder aux populations civiles en souffrance et de leur garantir la satisfaction de leurs besoins premiers en toute sécurité. Alors, de ce point de vue, l'action des organismes humanitaires, elle est à la fois neutre et impartiale. Elle est neutre parce qu'on s'abstient de tout acte qui puisse être interprété comme favorisant les intérêts des uns ou des autres sur le terrain. Et elle est impartiale parce qu'il n'y a pas de discrimination dans l'attribution de l'aide et que cette aide est vraiment uniquement calculée en fonction des besoins sur place. S'agissant, en second lieu, du recours à la force armée, il me semble évidemment que c'est l'écueil sur lequel le plus souvent échouent aujourd'hui les prétentions de neutralité des États. Pour trois raisons. Première raison, et on en parlait ce matin avec Patrick, donc tu vas voir que je suis d'accord avec toi. La définition du système de sécurité collective en 1945. À partir du moment où on explique qu'un organe centralisé, le Conseil de sécurité, est responsable principal du maintien de la paix internationale, et que cet organe est capable de décider de sanctions non militaires et militaires qui s'imposent obligatoirement aux États membres des Nations Unies, où est la part de neutralité ? La Suisse a trouvé sa voie. Je vais y venir. Mais donc ça, c'est la première raison pour laquelle aujourd'hui, il est compliqué de rester neutre. Deuxième raison, les organisations régionales. L'appartenance d'un grand nombre d'États à des organisations régionales, alors évidemment, quand il s'agit de pactes de défense comme l'OTAN, bon, la question ne se pose même pas, mais je pense à des organisations régionales comme l'Union européenne qui ont un volet défense, qui fonctionnent de mieux en mieux. On voit bien que quand on appartient à une organisation régionale, il est compliqué de garder sa neutralité et de ne pas vouloir participer aux actions décidées. Troisième raison, et ça c'est une raison plus globale qui répond à l'évolution de la société internationale, c'est le flou qui s'instaure maintenant entre la guerre et la paix. Et ça, on le voit, à mon avis, sur deux plans. Premier plan, on n'a quasiment plus de conflits armés internationaux aujourd'hui dans le monde. On a des conflits armés non internationaux. Donc, des guerres qui se déroulent sur le territoire d'État entre des factions plus ou moins bien identifiées, rebelles, légitimes ou non, terroristes, actions gouvernementales, etc. Donc, ça rend malaisé, on le sait, ça rend malaisé notamment l'application du droit humanitaire, mais ça rend malaisé d'une manière générale la posture de neutralité. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on appelle les conflits asymétriques. La guerre contre le terrorisme, bien sûr, guerre entre guillemets, hein, ce n'est pas une vraie guerre, mais c'est l'expression, hein, guerre contre la terreur. La guerre contre le terrorisme a mis en évidence la difficulté d'adaptation des catégories juridiques du droit international et notamment de celle de la neutralité. Alors face à ces diverses mutations, comment peut faire l'État neutre pour le rester ? Il peut faire comme la Suisse, c'est-à-dire il peut décider d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité prises sur la base du chapitre 7, mais qui ne comportent pas de volet armé. C'est-à-dire uniquement les sanctions diplomatiques, économiques, et refuser de participer à des actions militaires communes. On le voit donc, hein, la voie de la neutralité est extrêmement mince aujourd'hui. Elle est mince et ça sera ma conclusion. Je crois que les temps ne sont plus à la neutralité. Ça fait un moment déjà. Ils sont à l'engagement. Ils sont à l'engagement pour témoigner de la solidarité internationale, de l'attachement à des valeurs communes. On le sait, les gouvernements y sont poussés par la nature des obligations juridiques en cause. Je pense ici à la nature erga omnes des obligations en matière de droit international des droits de l'homme et de droit international humanitaire. Les gouvernements y sont poussés de manière beaucoup plus prosaïque pour des raisons politiques. Ils ont la pression de leurs opinions publiques qui les pousse à intervenir, à ne pas rester neutres, impassibles. D'une manière générale, ça n'est pas nouveau. Depuis 1945, la neutralité peut être synonyme de lâcheté. On a vu tous les débats qui ont entouré la non-action du CICR, qui connaissait l'existence des camps d'extermination et de la Shoah dès 1942 et qui n'a rien fait. Alors rien. Le CICR a fait des choses, mais pas suffisamment fait. Et donc, cette posture de neutralité, y compris pour un organisme humanitaire, a été extrêmement critiquée. Pourtant, et ça sera ma vraie conclusion, Monsieur le Président, je passe à peine un peu mon temps, ça et là, des voix s'élèvent aujourd'hui. Des voix s'élèvent pour rappeler les avantages de la neutralité face à des dérives auxquelles on assiste dans la communauté internationale. Des dérives qu'on connaît tous, hein, les dérives de l'intervention armée unilatérale, au nom de différents principes humanitaires qui sont bien évidemment instrumentalisés. Des dérives aussi au regard de l'incapacité de la communauté internationale à assurer la reconstruction d'États de droit. On intervient en Libye et conclusion, qu'est-ce qui se passe ? Que devient le troisième volet de la responsabilité de protéger, à savoir la reconstruction de l'État de droit dans un État dans lequel on est intervenu ? Ben pour l'instant, pas grand-chose. Hein. La situation en Libye n'est pas plus plaisante aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 5 ou 10 ans. Donc ça, évidemment, c'est une considération à prendre en compte. Et puis, il y a toujours, bien sûr, dans ces actions armées unilatérales ou plus ou moins unilatérales, la grande alliance États-Unis-Royaume-Uni, par exemple, il y a toujours un relent de néocolonialisme qui fâche quand même beaucoup les États sur le territoire desquels on intervient. Donc, pour ces raisons, il me semble qu'il serait peut-être bon de réfléchir à nouveau aux avantages de la neutralité en droit international. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si la Société européenne de droit international consacre son colloque auquel je compte peut-être revendre ma communication, parce que c'est à Grenade, en Espagne, alors quand même, c'est bien sympathique. Je ne dis pas que Tours n'est pas sympathique. Mais enfin, le climat est un peu meilleur à Grenade. Hein. Et donc, voilà, colloque de la Société européenne, mars 2017, hein, le titre, « La neutralité du droit international, mythe ou réalité ». Donc voilà, il me semble que la neutralité en droit international n'est pas un sujet qu'on peut enterrer facilement. Ça reste un vrai sujet, et c'est un sujet qui, comme d'habitude, renvoie à la question des mutations de la souveraineté de l'État. Je vous remercie.
Merci beaucoup, chère Muriel.